vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Bonjour, oui, vous êtes bien sur Radio B 90 FM avec Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire. Et pour ce mois de mars 2025, tout d'abord, je voulais mettre à l'honneur des femmes, voilà, des femmes romancières de première grandeur, telles Zoé Brisby, que je vous ai déjà présentée, mais que je refais, Sophie Talmen, également déjà présentée, Nathalie Rouillet, une nouvelle venue, Johanna Gustafsson, et puis peut-être des héroïnes comme René Ballard, qui est soutenue par le romancier, le grand romancier Michael Connelly, et Rudy Meyer de Jean-Marie Légoni. Et peut-être, si j'ai encore du temps, une poétesse comme Louise Labbé qui était de Lyon, et qui est présentée aujourd'hui dans un petit livre de la poésie Gallimard par André Velter, qui est également un très grand poète que j'apprécie, « Ce besoin d'aimer pour aimer ». Alors, il présente plusieurs poètes, dont trois poétesses, Louise Labbé, Marceline Desbordes-Valmore et puis Catherine Pozzi. Mais ça, ce sera pour, je pense, le mois ou d'avril ou mai. Voilà. Parce que l'actualité littéraire est d'une telle vitalité que je reçois deux autres romans. Le premier, c'est « Percer la nuit » de Carole Agari, voilà, avec un personnage central très attachant que je vais donc en parler. Et aussi, alors un livre étonnant, « Le baiser de la demoiselle » de Kat Foster qui m'a envahi et je vais donc également le présenter ce mois-ci. Alors, je commence par le premier livre qui s'appelle « Hollywood Land », sur la ville du cinéma de Hollywood Land, par Zoé Brisby, édité par Alba Michel, et c'est une diffusion Gilles Paris, que je remercie, parce que c'est grâce à lui, à sa diffusion, que je connais Zoé Brisby. C'est le troisième roman sur la vie américaine qui se passe, celui-ci, sur les hauteurs de Los Angeles à Hollywood. C'est un roman historique, car il y a un contexte historique qui est terrible, car il se produit, ce roman, dans un monde sans pitié et haletant, grâce au style de Zoé Brisby. Avec trois personnages clés, devenus des amis, et qui sont au centre de cette aventure, une aventure pleine de rêves, afin de devenir des stars du cinéma. C'est vraiment la grande aventure du moment. Avant, même après, ce sera encore une grande aventure. Parmi elles, il y a Peg Entwistle, jeune actrice talentueuse au destin prometteur. Venue du théâtre qu'elle a pratiqué avec entrain, tout d'abord à Boston et puis à New York. Mais les temps changent et tous les regards se tournent maintenant vers le cinéma. Car nous sommes en 1929. Vous savez bien qu'en 1929, c'est la Grande Dépression, avec plein de changements. En particulier le théâtre, bien les gens... moins d'argent, moins de ne vont plus au théâtre. Donc, l'héroïne se tourne vers Peg, se tourne vers le cinéma, vers Hollywood et le cinéma. Et s'il y a à côté de Peg and Sweet, de Peg, il y a aussi des amis, hein, comme Medji ou Magi. C'est appelé Medji, Magi qui vient du Missouri. Ou comme Joyce qui est habillée, qui est en pantalon parce qu'elle a été blessée dans son enfance et qui se comporte comme un garçon. Malheureusement, ce sera mal vu à cette époque hypocrite, car il y a des choses qu'on ne veut pas révéler. Il y a aussi une rivale, jalouse de la beauté de Peg, donc, et qui s'appelle Vanda, mais pour elle, ce sera une sorte de guerre secrète, de guerre, parce qu'elle en veut tellement à Peg. Et puis il y a Joe qui est un très très bel homme, qui va servir tout d'abord dans des petits rôles, et puis qui va devenir la nouvelle coqueluche des studios. Et il va aider, soutenir Peg, et elle va aussi le soutenir. Donc ils seront très proches, et il y aura même entre eux une parfaite histoire d'amour. Mais il va y avoir malheureusement deux drames. Le premier, eh bien, c'est que Joe, dans une cascade, dans une voiture qui doit traverser un brasier, mais qui doit s'arrêter normalement. Mais malheureusement, dans la voiture, est-ce que c'est un acte terrible, voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, il va mourir des suites de cet accident prévu, mais imprévu. Et puis le deuxième drame, eh ben, c'est parce que Peg va se jeter du haut de la lettre H. Il y avait deux grands panneaux à Hollywood, panneaux mythiques, voilà, qui se dressent, qui devaient se dresser un petit peu. Et puis pendant plus de 50 ans, on verra ces panneaux éclairés. Hollywood, donc il y a le H, eh bien, Peg va se jeter, semble-t-il, mais est-ce un suicide ou est-ce on l'a poussé ou... Donc le roman repose sur cette énigme. Donc elle va se jeter, semble-t-il, du haut de la lettre H. À partir du suicide légendaire de l'actrice dont le fantôme hante encore les collines de Los Angeles, Brisby tisse un roman poignant, explorant la machine à rêve qu'est l'industrie cinématographique. Elle mène une enquête fiction palpitante, puisqu'il y a des personnages qui s'aiment et puis d'autres qui ne s'aiment pas, sur le destin tragique de la Hollywood Sing Girl. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce grand roman de Zoé Brisby sur Hollywood Land. Voilà. Alors je passe au deuxième livre qui est aussi quelque chose de très important pour moi. La tendresse avec un T majuscule, la tendresse des autres aussi, c'est de Sophie Talmen et ça vient de paraître également chez Albin Michel. Elle remercie d'ailleurs Sophie Talmen comme Zoé Brisby, Gilles Paris d'avoir bien fait son travail de diffusion. Sophie Talmen est neurologue. Je le dis parce que vous allez voir pour la suite de l'histoire. Elle vit en Bretagne, une région qu'elle affectionne et qu'on retrouve dans tous ses romans, dont celui-ci, La tendresse des autres, où on est à Brest ou dans les environs de Brest. Le héros de cette histoire forte se prénomme Thibaut. Thibaut, mais il s'exprime. Donc lui, quand il parle, il se dit Thibaut, T-I-B-O, et non Thibaut comme le Thibaut que vous connaissez. Il a 10 ans, mais malheureusement, il ne peut plus marcher suite à un accident de trottinette. Il a été renversé par quelqu'un, donc on le découvrira comment, le pourquoi et le comment. C'est un drame terrible, pour lui bien sûr, mais aussi pour Lucie, sa mère, qui va tout quitter, tout faire pour redonner à son petit garçon le goût de vivre. Il y a deux lieux, l'hôpital et la maison. À l'hôpital, eh bien, il y a les docteurs, les infirmières, tout le personnel soignant qui vont accompagner ce jeune garçon de 10 ans, Thibaut, et lui permettre un petit peu d'émerger. Et puis, il y a la maison, parce qu'une fois qu'il sera... suite à son accident, on a dû lui couper une moitié d'une jambe, donc il est vraiment handicapé. Et puis, il est tellement handicapé qu'il ne veut pas regarder son truc. Il appelle un truc, il ne veut même pas le toucher, il ne veut pas... Et tout faire pour redonner à son petit garçon le goût de vivre. Elle sera à la fois cette Lucie, femme importante, centrale de ce roman, femme, mère, épouse et amie, et une soignante attentionnée. Heureusement, à la maison, il y aura un homme exceptionnel qui s'appelle Antoine, un très bon kiné, qui comprend très bien que Thibaut se braque, il reste dans sa chambre, il ne veut pas sortir. Heureusement, il y aura aussi un autre personnage qui va jouer un grand rôle, c'est un chien. Ils vont l'appeler Nietzsche, un lévrier qui peut courir très très vite et qui deviendra le véritable compagnon de Thibaut. Et qui va, parce que le chien, le kiné, lui dit, Antoine dit, mais tu dois faire sortir le chien, tu ne peux pas le laisser comme ça dans ta chambre, il faut qu'il puisse bouger, hein. Même il peut courir. Donc peu à peu, Thibaut va accepter de sortir de sa chambre, de la maison, d'aller dans le jardin, et puis d'aller plus loin, et même un jour d'aller jusqu'à la plage et à la mer, et même se baigner dans la piscine. Donc peu à peu, il va prendre conscience de son handicap, de sa jambe à moitié coupée, la toucher, la prendre dans les mains, peu à peu, et même il va comprendre que avec une très bonne attelle bien adaptée, il pourra à nouveau marcher et même courir très vite, courir derrière un ballon, chose qu'il aimait faire avant. Donc la piscine, la mer, tout ça, donc va lui permettre d'aller beaucoup mieux, de s'en sortir. Mais il faut la tendresse des autres, c'est-à-dire que l'émotion, tout en retenue, la délicatesse des sentiments et des liens familiaux, la force de résilience. Il y a d'ailleurs un très beau mot sur la résilience donné par un grand écrivain, Boris Cyrulnik. Il dit que la résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. Et c'est bien un torrent qui est arrivé à cette famille, à Lucie comme à ce petit garçon Thibaut. Alors oui, c'est un roman rempli de pudeur, de dévouement et de bienveillance. Une très belle lecture grâce au talent de Sophie Talmen, qui, je vous dis, connaît très bien ces milieux hospitaliers et se met très bien dans la peau de ce jeune garçon qui se trouve brutalement handicapé. Et qui donne du courage et de l'espoir, et qui nous prouve que ce n'est qu'uni que nous pouvons avancer. Elle frappe une nouvelle fois avec ce roman La tendresse des autres en plein cœur. Seuls, dit-elle, nous pouvons faire si peu, mais ensemble, nous pouvons faire beaucoup. Voilà ce que je voulais vous dire de ce très beau roman, La tendresse des autres, de Sophie Talmen, à lire sans faute. Voilà. Alors, je passe à un troisième livre qui est très différent, puisque c'est un roman noir. Et on passe donc avec Les morsures du silence de Johanna Gustafsson, édité par Kalman Levy, un roman noir, voilà. C'est un thriller, Les morsures du silence, un thriller glaçant et impitoyable qui revient sur un sujet très grave dans la vie contemporaine et où le lecteur devient lui-même l'enquêteur, obsédé par l'envie de résoudre les mystères, parce qu'il y a plusieurs mystères, de cette sombre affaire. Française, installée en Suède, où se déroule ce roman, Johanna Gustafsson s'est fait un grand nom sur la scène du polar international, avec notamment L'île de Yule, plébiscité par les lecteurs et couronné à plusieurs prix littéraires en 2024 et qui est paru en livre de poche. Donc, si vous voulez, vous pourrez le lire en livre de poche, L'île de Yule. Et dans ce roman, Les morsures du silence, on trouve une personne vêtue d'une aube blanche et coiffée de bougies. C'est un adolescent qui retrouvait le crâne fracassé sur l'île de Lidingö en Suède, qui fait face à Stockholm. Or, 23 ans plus tôt, une jeune fille a été découverte, assassinée, elle aussi au même endroit, dans le même costume traditionnellement destiné à fêter la Sainte-Lucie. Voilà. En Suède, il y a une grande fête, la Sainte-Lucie. Et alors, donc, on s'habille en eau blanche, on se coiffe de bougies, parce que Sainte-Lucie, c'est la lumière. Donc, à cette époque, l'hiver, on a besoin de lumière. À l'époque, la petite victime avait été condamnée. À l'époque, le petit ami, c'est pas la petite, il y a une victime, mais le petit ami de la victime avait été condamné pour ce meurtre qu'il a toujours nié. Était-il innocent? Le véritable coupable aurait-il été frappé à nouveau? Point d'interrogation. Mais pourquoi maintenant? Ce sont donc des mystères, des questions qui sont posées et que les enquêteurs doivent parvenir à résoudre. Alors, il y a le commissaire Alexander Storm qui, avec l'aide inattendue de la policière française Maya Rehn, récemment installée en Suède Pourquoi ? Eh bien, on va le découvrir plus tard, bien sûr, je ne vais pas tout vous dire. Elle va obstinément tenter de démêler les fils de cette énigme et mettre au jour les secrets. Un secret enfoui depuis si longtemps qu'il a fait de trop nombreux victimes ravages. Alors je vous lis quand même un dernier passage de ce roman emblématique et puissant. Maman, le jeune Gustave, qui était en prison et qui va se suicider, dit à sa mère, maman, le 25 mai 2023, donc c'est pas très très vieux, 2023, maman, j'ai tant à te dire, tant et pourtant même, si chaque mot contenait une histoire, ce ne serait pas assez, tu ne m'as jamais autant aimé que depuis qu'on m'a accusé du pire, et ne t'ai jamais senti aussi proche de moi, aussi aimante, aussi protectrice que depuis que le monde m'a enformé avec d'autres monstres. Tu as été mon roc, maman. Merci pour cette foi, la foi en moi. Sans ça, sans toi, je n'aurais jamais trouvé la force de survivre ici en prison. Mais justement, maman, je ne peux plus vivre dans le mensonge. Je ne peux plus te mentir. J'ai passé plus de 20 ans à le faire. Et j'en suis tellement, tellement désolé. J'aimais être celui que tu présentais partout, celui que tu défendais, celui que tu décrivais. J'aimais être dans sa peau, ce vêtement que tu tissais à chaque parole. Mais maintenant, je sais, le moment est vraiment que tu m'aimeras malgré ça, malgré mon mensonge et mon suicide. Je ne te laisse pas, maman, je te libère. Je te libère du poids de me défendre et de te battre pour moi. Jenny était l'amour de ma vie, mais elle a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Jenny était redevenue mienne ce soir-là, puis était endormie dans mes bras. L'émotion de la Sainte Lucie, où elle était notre reine à tous, l'alcool pendant la soirée et nos retrouvailles, nos précieuses retrouvailles. Je l'ai laissée dormir, je suis descendu chercher les gars qui sont pas très recommandables. Elle aussi a vu le monstre. Et elle s'est sauvée, et malheureusement, je lui ai dit qu'elle m'était destinée. Elle a ri, elle n'a pas répondu qu'elle ne me laisserait plus jamais la toucher. Alors j'ai essayé de la raisonner, de lui rappeler ce qu'elle aimait tant en moi et qui nous unissait, mais elle s'est débattue en me griffant, comme si j'étais vraiment ce monstre dont elle parlait. J'ai voulu qu'elle te taise, tu comprends, et j'ai agi avant de réfléchir. Donc c'est lui qui l'a tuée, même s'il l'aimait réellement. Je prends soin de toi, maman, ton Gus qui t'aime à jamais. Voilà. Donc, on arrive à ce moment terrible où les choses se dévoilent. Et elle parle aussi, Johanna Gustafsson, de ses morsures du silence. Bon, c'est le titre d'un ouvrage, d'une œuvre. Peut-être pas très recommandable pour le personnage de cette œuvre, mais elle parle aussi des viols, et de cet acte terrible qui fait que les femmes, les victimes, n'arrivent plus, sont comme paralysées, n'arrivent plus à se défendre et à dire non, c'est ce qu'elles ne veulent pas de cet acte, mais elles ne peuvent, elles sont immobilisées. Et voilà. Donc, je m'arrête là pour ce grand roman, Les morsures du silence, de Johanna Gustafsson, qui vient de paraître chez Kalman Levy. Alors, j'ai un autre livre aussi, qui un pendant, une découverte, Percer la nuit, de Carole Agari, au Rouergue noir. C'est le premier roman qui met en scène, un premier roman qui met en scène Joanne. Joanne, une femme très attachante. C'est vrai que grâce au style, je pense, de Carole Agari, je vous en reparlerai, je me suis très vite attaché à cette Joanne. Une femme qui, même si elle a été condamnée pour homicide il y a 6 ans, elle n'a que des souvenirs parcellaires de l'accident. Il y a eu un accident, un drame terrible, et une personne qui est morte, qu'elle a provoqué sous l'emprise de l'alcool et des psychotropes à sa sortie de prison. En libération conditionnelle, elle doit revenir dans la métropole où elle a grandi. En marge des grands chantiers, il y a des grands chantiers dans cette métropole, à l'image des personnages précaires qu'elle côtoie, elle va, il faut bien trouver un travail. Elle a un logement, mais qui ne va pas durer longtemps. Donc, elle doit trouver un travail et elle va, comme d'autres, déposer des publicités. Vous savez, des publicités, des grands magasins, des publicités dans les boîtes aux lettres des particuliers, selon un secteur qu'elle a à couvrir, les particuliers qui acceptent de recevoir dans leur boîte postale des publicités. Voilà, pour... Donc, elle se bat seule, cette Joanne, elle se bat seule pour gagner sa liberté pas à pas. Mais confrontée au lieu de son passé et de son crime, où la guette l'ombre d'une sœur, qu'elle aimait, qui s'appelle Lily, mais qui était trop magnétique, et puis l'animosité d'un père, aux passions troubles, parce qu'on découvre peu à peu qu'entre le père et Lily, sa fille préférée, il s'est passé certaines choses. Alors, la mémoire de Joanne, sa mémoire la taraude, et avec ses hantises et ses doutes, la menace d'une récidive, que s'était-il vraiment passé 6 ans plus tôt? Un mystère qu'elle doit éclaircir, retrouver la mémoire dans le décor d'une cité portuaire où le sauvage ne cesse de le disputer à l'urbanité. Carole Agari plante un premier roman d'une splendide et bouleversante humanité. Voilà pourquoi j'ai été vraiment très, très réceptif à ce roman. Joanne était directrice d'une auto-école. Donc, il y a eu un accident, voilà, de conduite auto-école. Voilà, terrible, puisque la mort de Sissi. Et elle ne peut plus conduire, et donc, voilà. Carole Agari vit dans le Lot. Depuis plusieurs années, elle est écrivain public, d'où la qualité de son roman, que je vous invite vraiment à lire, à découvrir. Et on écoute de la musique. J'ai choisi une musique de Franz Schubert, un impromptu, l'impromptu numéro 3, au piano se trouve Nadja Rubanenko. Nadja Rubanenko. Et on l'écoute. N'est-ce pas que c'était très beau avec au piano la grande pianiste Nadja Rubanenko. Donc là encore, on retrouve en ce mois de mars hommage aux femmes pianistes. Alors, j'arrive à un cinquième roman qui m'a aussi beaucoup interpellé. Meurtre au pluriel, meurtre, il y en a plusieurs, au Mont Saint-Odile, que j'ai la chance de connaître un petit peu. C'est de Nathalie Rouillet et ça vient de paraître aux éditions Viviane Ami, que je retrouve avec grand plaisir à cette occasion brillante. Meurtre au Mont Saint-Odile, au-dessus de qui domine la plaine d'Alsace. Alors que l'inspectrice Maggie Muser et son fiancé, le médecin légiste Édouard Janvier, profitent d'un week-end en amoureux en Alsace, ils font la découverte du cadavre d'une jeune femme vêtue d'une simple peau de bête. Et cette dernière repose au fond d'une tombe mérovingienne, parce que le Mont Saint-Odile, ça se passe au Mont Saint-Odile, sur les hauteurs, et que ce Mont Saint-Odile est un lieu très ancien. Il s'est passé beaucoup de choses. Et cette dernière donc repose au fond d'une tombe mérovingienne, le cœur arraché. Nous sommes donc, comme je viens de le dire, sur les hauteurs au Mont Saint-Odile. D'autre part, dans cette histoire ténébreuse, contraint par sa hiérarchie de tenir éloigné de ses affaires son amante, la fougueuse Akam, c'est le nom de cette amante, la fougueuse Akam, l'inspecteur Thomas Micheli, qui est chargé de cette enquête, l'inspecteur Thomas Micheli continue de la voir en privé. Parce que dans un précédent roman, je pense qu'on les retrouve tous les deux. Donc l'inspecteur Thomas Micheli, par ses supérieurs, doit s'éloigner de son amante. Mais il continue à la voir en privé. Appelé à rejoindre Maggie et Édouard en urgence, il délaisse donc Akam sans lui fournir la moindre explication et qui, bien sûr, n'acceptera pas cet isolement. Et irrité par ce départ imprévu, Akam, la détective, donc, compte bien, avec l'aide de son fils appelé Sid, un hacker talentueux, elle pense bien, donc, Akam, élucider le meurtre de la jeune femme avant son compagnon et comprendre les mises en garde qui leur parviennent, car il y a des mises en garde affichées qui leur parviennent. Alors la première, c'est « Méfie-toi de ce que tu vois, une porte peut en cacher une autre ». Voilà, c'est un peu mystérieux, mais ça dévoile quelque chose. Et plus l'enquête avance, grâce aux deux enquêteurs, Thomas Micheli et puis Akam, plus cette enquête prend des airs de rituel ancestral. Il faudra bien les deux équipes d'enquêteurs donc pour résoudre cette affaire ténébreuse et la rencontre avec d'autres personnages qui appartiennent à ce lieu mythique. et avec son abbaye et sa bibliothèque très ancienne, il va se passer des choses dans cette bibliothèque très ancienne, avec les livres, avec certains livres. Alors, touristes, employés, adeptes, ou encore hommes de foi, car il y a un homme de foi qui existe encore là-bas au Mont-Saint-Odile. Le tueur peut être n'importe qui, et frappé à tout moment, donc il y a un grand suspense. Heureusement, il y a deux anges. Ben oui. Et on pourra clore ce chemin nocturne avec grande satisfaction. Voilà. Donc, je m'arrête là pour ce premier roman de Nathalie Rouillet, Meurtre au Mont-Saint-Odile, qui vient de paraître chez Viviane Ami, aux éditions Viviane Ami. Alors, je vais vous parler d'un livre aussi qui m'a un peu surpris, parce que c'est un peu différent, atypique. C'est le livre de... Ça s'appelle « Descente de liste » de Jean-Marie Légoni. Jean-Marie Légoni est un jardinier incompétent, bricoleur dangereux et élu incompris de son village de l'ouest lyonnais. Donc il voue logiquement sa retraite d'entrepreneur à l'écriture. Et si je dis ça, c'est parce que c'est un état de fait que l'on retrouve dans ce premier roman avec l'enquêtrice qui s'appelle Gertrude, dite Rudy Meyer, ça fait un peu plus moderne que Gertrude, dite Rudy Meyer, une enquêtrice atypique et attirante qui débarque à Saint-Pierre-et-l'Étoile, un bourg à la périphérie de Lyon, où la ville mord sur la campagne. Et ce sera un premier débat de ce roman, la ville qui mord sur la campagne. Et Rudy s'interroge aussi sur le bien fondé de sa mission, celle de vérifier qu'un ex-officier d'une base de protection aérienne de l'OTAN, il y aura un rapport avec la Russie, comme par hasard, avec la Russie. Et ce ex-officier d'une base de protection aérienne est aussi tête de liste des élections municipales, puisqu'il est à la retraite et qu'il est dans ce village, installé dans ce village. Il est tête de liste des élections municipales par ailleurs. Donc elle est bien décidée. Est-il bien décédé, mort, de la Covid-19 deux mois plus tôt, en mars 2022, voilà, qui vous dit des choses sans doute, ce Covid-19 et puis le fait qu'on a dû se tenir à carreau. Alors l'assassinat de colissiers, parce qu'il y aura d'autres assassinats, l'assassinat de colissiers du défunt, va conduire l'enquêtrice à reconsidérer ce qui ne semblait pas être une simple formalité de police militaire, parce qu'elle est gendarme, donc elle avait rempli une mission de police militaire. Et suivant les humeurs d'une gendarme un brin trop sûre d'elle, mais déterminée quand même à connaître les dessous de ces deux affaires liées, ce polar mené tambour battant traverse un milieu périurbain réputé léthargique, mais secoué de tant d'inimitié que l'on ne compte bientôt plus le nombre de suspects, afin de connaître la vérité. Et ben, elle va y arriver, même si ce ne sera pas facile avec ses supérieurs. Et Rudy, à la fin, pourra rejoindre le GIGN comme elle le souhaitait, l'affaire étant bien classée. Alors je vais parler maintenant d'un autre livre très impressionnant et très puissant qui s'appelle « Le baiser de la demoiselle », de la demoiselle, baiser au pluriel, hein, le baiser de la demoiselle, aussi avec un grand D, demoiselle. C'est de Kat Foster, qui est écossaise, avec une très bonne traduction de Christine Gaillard-Paris, que je vous dis, parce que qui vient de paraître aux éditions Phébus. Phébus est aussi un éditeur que j'appréciais beaucoup, que je retrouve avec grand plaisir. Alors, Kate Foster a grandi à Édimbourg, où elle vit toujours. Son premier roman, Le baiser de la demoiselle, c'est justement ce livre-là qui est traduit en français, a été lauréat du Bloody Scotland Crime Debut of the Year en 2023 et sélectionné pour le Woman Prize en 2024. C'est-à-dire que c'est vraiment un grand roman qui a été apprécié par de nombreux critiques, lecteurs. Voilà. L'héroïne malheureuse de ce roman a réellement été exécutée, c'est-à-dire décapitée par cette demoiselle qui est la machine à trancher les têtes, conçue pour exécuter les membres de la noblesse. Son mécanisme rapide est réputé moins douloureux que la hache, parce que bien sûr, on coupait la tête des nobles avec une hache. Mais bien sûr, aucune de ses victimes n'a survécu pour témoigner si c'était préférable ou pas. Ce roman est une fiction. Heureusement, parce que imaginé par Kate Foster, qui montre très bien que cet homme assassiné, Lord James Forrester, était un grand séducteur. Et à cette époque, en 1679, sous le règne de Charles II, les hommes, surtout les aristocrates, avaient, semble-t-il, tous les droits pour eux. Même mariés à une lady légitime, et donc Lady Christian Nimmo, qui est accusé, Christian Nimmo, d'avoir assassiné avec une épée son amant, Lord James Forrester. La nouvelle de son emprisonnement et de son procès s'étale dans les journaux, avec des titres qui ne laissent guère place au doute, mais qui traite, et c'est l'époque hypocrite, qui traite une telle personne de femme adultère, putain, meurtrière, alors que l'homme semble sans tache. Voilà pourquoi c'est un très très bon roman et qui a eu de nombreux succès, parce que très bien rédigé par Kate Foster. À peine un an plus tôt, Christian, pour nous Français, on est un peu surpris par ce prénom masculin, Christian, donc, était encore une jeune mariée, respectable, et menait une vie de privilège. Pourquoi tout risquer pour une liaison avec celui qui est également son oncle par alliance? Cette passion interdite la rend-elle pour autant coupable de l'homicide dont l'accuse violée? Voilà encore un autre personnage féminin important qui gravite autour de Lord James, qui est une prostituée engagée par James pour satisfaire ses appétits nombreux. Et la jeune Christian, à 13-14 ans, va rencontrer ce Lord James et qui va jeter un peu sur elle son dévolu, car elle avait une jeune sœur qui paraissait beaucoup plus belle et qui va se marier avant elle. Et elle avait été séduite, plus ou moins, mais bon, elle va se marier avec un homme très bien, mais peut-être un peu trop sobre, un petit peu marchand de vêtements, de toile, et qui va voyager beaucoup. Alors, je ne vais pas tout vous raconter, hein, mais voilà. Elle aussi, pourtant, violée, aurait eu des raisons de souhaiter sa mort, la mort de Lord James, parce que il va la traiter d'une manière plutôt ignoble. Dans cette fiction haletante, librement inspirée d'une affaire criminelle sulfureuse et sanglante, Kate Foster redonne une voix à des femmes autrement réduites au silence de l'histoire. Voilà pourquoi je voulais vous parler du baiser de la demoiselle. Alors c'est vrai que le temps passe et qu'il fallait que je vous parle de tous ces grands livres avec succès, en train, parce que c'est vraiment de très grands livres. Alors c'est vrai que de Louise Labbé, j'avais dit que je vous parlerais peut-être de ce besoin d'aimer pour aimer, des poètes de l'amour, sélectionnés ou choisis, édités par André Velter, lui-même grand poète. Mais je pense que j'aurais pas trop le temps, ou alors juste quelques poèmes de Louise Labbé, que tant de feu portant, aux beaux yeux bruns, aux regards détournés, aux chauds soupirs, aux larmes répandues, aux noires nuits vainement attendues, aux jours luisants vainement retournés, aux tristes plaints, aux désirs obstinés, au temps perdu, aux peines dépendues, aux mille morts en mille rétendues, aux pires maux contre moi destinés, aux ris, aux fronts, cheveux, bras, mains et doigts, aux luttes plaintives, viols, archers et voix, tant de flambeaux pour arbre, une femelle, de toi me plains que tant de feux pourtant, et tant d'endroits, dit ce, mon cœur t'attend, n'en est sur toi volé quelque étincelle. Ô long désir, ô espérance vaine, triste soupir et larmes coutumières, a engendré de moi maintes rivières, dont mes deux yeux sont source et fontaine, aux cruautés, aux duretés inhumaines, piteux regard des célestes lumières, du cœur transi aux passions premières, et s'aimez-vous croître encore mes peines, qu'encore amour sur moi son arc essaie, que nouveau feu me jette et nouveau dard, qu'il se dépite et puis qu'il pourra face, car je suis tant navré en toutes parts que plus en moi une nouvelle plaie, pour m'empirer, ne pourrait trouver place. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, j'ai chaud extrême en endurant froidure. La vie est trop molle et trop dure, j'ai grand ennui entremêlé de joie, tout à coup je ris et je larmoie, et en plaisir maintes griffes tourments j'endure, mon bien s'en va et à jamais il dure, tout en un coup je sèche et je verdoie, ainsi amour inconstamment me mène, et quand je pense avoir plus de douleur, sans y penser je me trouve hors de peine, et puis quand je crois ma joie être certaine, être au haut de mon désiré heur, il me remet en mon premier malheur. Et je m'arrête là, parce que c'est très beau, mais ça vous montre combien il est difficile d'aimer. Alors voilà, vous pourrez découvrir tout ça et d'autres poèmes comme de Pierre Ronsard, Marceline Desbordes-Valmore, Guillaume Apollinaire, Catherine Pozzi, Louis Aragon et Jean Genet dans ce besoin d'aimer pour aimer, des poètes de l'amour dans la collection Poésie Gallimard qui vient de sortir, catégorie 1 je crois, avec de très belles illustrations que vous pourrez découvrir en librairie. Voilà, et je vous dis à bientôt, au mois prochain, si vous voulez bien m'accompagner dans ces lectures. Vous écoutez Patrice Perrin, l'amoureux des lettres, pour son émission au Café littéraire.